France Culture. Et le journal vous est présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Question ce soir sur la pause de Donald Trump dans sa guerre commerciale. Les marchés boursiers se sont envolés à l'annonce de cette pause et l'opposition démocrate aux États-Unis soupçonne un délit d'initié. Regroupement dans le monde du luxe, l'Italien Prada rachète son compatriote Versace pour mieux affronter les géants français du secteur. L'enseignante d'Evaël relaxée, le tribunal de Pontoise estime qu'elle n'est pas responsable du suicide de cette collégienne harcelée. Les parents d'Evaël se disent ce soir révoltés par ce jugement. À la fin de ce journal, nous évoquerons avec Antoine Guillot la sélection du prochain festival de Cannes. 6 réalisatrices brigueront cette année la Palme d'Or. C'est le débat qui monte aux États-Unis et dans le monde entier. Pourquoi Donald Trump a-t-il subitement ordonné hier soir une pause de 90 jours pour ses surtaxes douanières, à l'exception de la Chine? Les marchés boursiers ont rapidement rebondi dès l'annonce de cette volte-face du président américain. Donald Trump, qui hier matin avait posté ce message « Restez cool, c'est le moment d'acheter des actions ». Et de fait, ceux qui l'ont entendu ont gagné beaucoup d'argent. Aux États-Unis, plusieurs élus démocrates soupçonnent le président américain d'avoir commis un délit d'initié, Loïc Loury.
Hier, en fin d'après-midi, à l'issue d'une journée faste à Wall Street, l'action DJT, les initiales de Donald J. Trump, avait bondi de plus de 20%. L'entreprise en question n'est autre que la maison mère du réseau Choose Social, dont l'actuel président s'avère être le principal actionnaire. Quelques heures avant la clôture des marchés, c'est sur cette même plateforme que le milliardaire avait incité les Américains à acheter en signant son message justement de ses initiales. Depuis, les démocrates accusent donc Donald Trump de délit d'initié. Un scandale se prépare, affirme l'élu Chris Murphy, sa collègue Alexandria Ocasio-Cortez assurant avoir entendu d'intéressantes conversations au Capitole. Adam Schiff, lui, réclame une enquête parlementaire qui, sauf surprise, n'aura jamais lieu. Mais d'autres, comme des acteurs privés lésés par la manœuvre, pourraient bien chercher réparation. Le président n'en est en tout cas pas à son coup d'essai, puisqu'en 2018, déjà en plein bras de fer commercial avec Pékin, il avait évoqué une formidable opportunité d'investir.
Loïc Loury, correspondant à New York. En attendant, l'Union européenne suspend à son tour sa riposte douanière pour 90 jours. Un signe d'apaisement en réponse à la pause de Donald Trump, une concession au président américain qui est aussi une manière de donner sa chance à la négociation, Fabien Cazot.
Officiellement, il ne s'agit que d'une pause, mais le commissaire européen à l'industrie, Stéphane Séjourné, espère qu'elle permettra de faire baisser d'un cran la tension avec l'imprévisible Donald Trump.
Ça rentre dans la logique de donner sa chance à la discussion. Et c'est plutôt un geste symbolique. Maintenant, tout est encore sur la table. Les choses peuvent changer très vite. Un signal a été donné d'un côté, il est donné de l'autre. Par contre, la discussion doit être honnête, transparente et nous permettre également d'avoir des résultats concrets rapidement pour les secteurs européens.
Certains secteurs industriels européens restent ciblés par d'autres droits de douane que Donald Trump n'a pas suspendus hier, notamment la sidérurgie. Selon l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, vice-présidente de la Commission Commerce International au Parlement européen, les 27 jouent un peu trop vite la carte de la désescalade.
La seule vraie question qu'on peut se poser maintenant, c'est à combien de concessions et de régressions l'Union européenne est prête pour ménager Donald Trump, ce qui est à mon sens une stratégie dangereuse, perdante, et qui nous expose à davantage encore de vulnérabilité dans les mois et années à venir.
La Commission européenne espère de son côté convaincre Donald Trump de signer un accord zéro droit de douane dans les prochains mois.
Fabien Cazot à Bruxelles. C'est un nouveau signe de réchauffement entre la Russie et les États-Unis qui ont repris le dialogue aujourd'hui à Istanbul. Les deux pays ont procédé au même moment à leur deuxième échange de prisonniers depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une citoyenne russo-américaine incarcérée en Russie pour trahison a été échangée à Abu Dhabi avec un germano-russe détenu aux États-Unis pour trafic de composants électroniques. Sylvain Tronchet nous appelle de Moscou.
L'échange a eu lieu sur l'aéroport d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Sur les images diffusées par la télévision russe, on voit Xenia Karelina sortir d'une camionnette. Cette russo-américaine avait été arrêtée l'an dernier alors qu'elle venait rendre visite à sa famille en Russie. La justice l'a alors accusé d'avoir fait un don d'une cinquantaine de dollars à une organisation ukrainienne depuis la Californie où elle vit. Elle a été condamnée pour trahison à 12 ans de prison. Pour obtenir sa libération, Washington a donc dû relâcher Arthur Petrov, un homme à la double nationalité, allemande et russe. Lui était accusé par la justice américaine d'avoir exporté illégalement vers la Russie des composants électroniques pour usage militaire. Il avait été arrêté à Chypre en 2023, puis extradé aux USA. Ce nouvel échange est censé symboliser le réchauffement des relations entre Washington et Moscou. Ceci dit, les États-Unis ont souvent accusé les Russes de pratiquer une diplomatie des otages en condamnant des citoyens américains à de lourdes peines pour des motifs parfois légers et pour récupérer en échange des espions ou des trafiquants d'armes, comme cela s'est vu dans le passé. Il reste encore plusieurs Américains dans ce cas dans les prisons russes.
Le Hamas salue la volonté de la France de reconnaître l'État palestinien, une étape importante pour l'un des responsables du mouvement islamiste Mahmoud Mardawi, et cela en raison du poids politique de la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Hier soir, Emmanuel Macron avait expliqué que cette reconnaissance de l'État palestinien pourrait intervenir en juin prochain lors d'une conférence internationale. Projet dénoncé par Israël qui y voit un cadeau au Hamas qui détient toujours une cinquantaine d'otages. Les géants français du luxe ont du souci à se faire ce soir. Deux de leurs concurrents italiens ont choisi de faire alliance pour mieux les affronter. Prada annonce avoir conclu un accord pour acheter Versace à son propriétaire américain. Montant de la transaction 1,25 milliard d'euros, l'opération sera bouclée à la fin de l'année. Pour Versace, c'est une nouvelle ère qui commence un mois après le retrait de Donatella, la sœur du fondateur de la marque. Bruno Duvic nous appelle de Rome.
Un groupe solide et une griffe rock'n'roll qui a perdu de sa superbe. Voilà le mariage du jour dans la mode italienne. Deux entreprises de Milan. D'abord Prada, le groupe discret qui résiste à la crise du luxe, avec sa marque Miu Miu en particulier. Chiffre d'affaires en hausse de 17% l'an dernier. Le 1er avril, l'un des talents de Miu Miu avait pris la direction artistique de Versace, succédant à la sœur du fondateur, l'imprévisible Donatella. C'était donc une première étape avant le rachat. Versace, connu pour ses tenues cuirées paillettes, n'a plus l'aura qu'elle avait à l'époque de Gianni, le fondateur, assassiné par un déséquilibré il y a presque 30 ans. Le propriétaire américain de la marque espérait un temps la céder pour 3 milliards d'euros. Ce sera moins de la moitié. Avec ce mariage naît un enfant 100% italien, de quoi regarder d'un peu plus près les géants français LVMH et Kering et démentir ce refrain que l'on entend souvent ici. Les marques du luxe sont italiennes, mais les propriétaires sont français.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture en Italie, et pendant que les géants de la mode se marient entre eux en Europe, le tissu industriel français s'effiloche un peu plus. Nouvelle illustration ce soir, l'usine chimique Vencorex près de Grenoble. C'est le groupe chinois Wanhua qui va le reprendre, a décidé ce matin le tribunal de commerce de Lyon au prix d'une véritable saignée des effectifs puisque seule une cinquantaine d'emplois sur 450 seront conservés. Le coup est rude pour les salariés de Vencorex dont l'offre de reprise a été écartée par le tribunal. C'est un reportage de Véronique Pueyo, ici Isère.
Sous un soleil de plomb devant une usine désertée, Leslie, une salariée de Vencorex, laisse éclater sa colère.
On y a tellement cru en cette société coopérative que là, on ne s'attendait pas à ça. C'est vraiment nous couper l'herbe sous le pied, alors que honnêtement, il nous manquait un mois vraiment pour pouvoir finaliser le projet. On garde 50 emplois, alors que notre société proposait de récupérer quand même 300 emplois. Beaucoup, beaucoup de déceptions, et surtout de la part de l'État, qui nous a complètement abandonnés, quoi.
Colère aussi pour les porteurs du projet de coopérative, qui pour boucler leur tour de table, avaient demandé un délai supplémentaire d'un mois, refusé par le tribunal de commerce de Lyon, Séverine Dejoux de la CGT.
On s'est battu, on a mené la bataille, on était à deux doigts d'y arriver. Une plateforme qui probablement aura du mal à implanter de nouvelles activités puisqu'elle n'est pas gérée. Voilà, c'est un grand gâchis parce qu'on avait des solutions.
Christophe Ferrari, le président de Grenoble-Alpes Métropole, dont le père a travaillé sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix, met en cause l'État et le ministre de l'Industrie.
C'est 120 ans d'histoire industrielle qui vont donc s'écrouler. Et j'ai une pensée pour mon père aujourd'hui. Alors oui, le temps nous a manqué. Et moi, j'ai l'intime conviction que, pour le ministre de l'Industrie, cette affaire était pliée depuis le début, en disant que, de toute façon, ce site allait fermer.
Et le 14 avril prochain, le chinois Wanhua prendra possession de l'usine de son ancien concurrent. Les salariés de Vencorex, eux, iront pointer à France Travail.
Le tribunal judiciaire de Pontoise a relaxé aujourd'hui l'enseignante d'Evaël, cette collégienne de 11 ans qui s'était suicidée en 2019. La professeure, âgée de 62 ans, était poursuivie pour harcèlement sur mineur. Elle était soupçonnée d'avoir joué un rôle dans la dégradation de la santé psychique de la préadolescente. Lors de l'audience le 18 mars dernier, l'accusation avait requis à son encontre 18 mois de prison avec sursis, une peine assortie d'une interdiction définitive d'enseigner. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Cette relaxe révolte les parents d'Evaël, alors quelles sont les motivations du tribunal ?
Compte tenu de l'émotion générée par cette affaire, la présidente du tribunal prend le temps de bien détailler le jugement. Selon elle, les éléments à charge sont discordants, indirects, peu circonstanciés. Certains relèvent même de comportements adaptés et légitimes s'agissant de l'autorité dont doit faire preuve un enseignant en classe. De plus, l'intentionnalité ne peut être prouvée selon la magistrate qui conclut « Les événements de juin 2019 sont dramatiques. Il est légitime que la famille d'Evaël recherche les causes de la tragédie. Mais les défaillances du système scolaire et de l'éducation nationale ne relèvent pas de la mission attribuée par la loi au tribunal correctionnel. Pour les parents d'Evaël, c'est la douche froide, mais Marie Dupuis, sa mère, souhaite rester constructive.
Je sais que la justice peut être dure, il faut la faire évoluer. Vous savez, le harcèlement scolaire n'existe que depuis 2022. Donc nous, notre fille ne pouvait même pas être jugée au titre de harcèlement scolaire, mais seulement harcèlement moral. Il s'est passé des choses importantes. Nous, on est sincèrement persuadés qu'on a protégé des enfants sur ces 5 dernières années puisqu'elle a été suspendue de l'enseignement. Ensuite, la loi dite Evaël que le député Balanant a fait voter en 2022 est issue de ce cas-là et ça a au moins donné ça. C'est là où je dis la société, elle est plus prête à avancer sur ces questions-là que l'éducation nationale et la justice.
La famille d'Evaël compte faire appel au moins pour un procès au civil car le parquet n'a pas encore annoncé s'il souhaitait faire appel pour un deuxième procès pénal. La professeure était absente lors du jugement mais à l'instant, elle nous fait connaître par écrit sa réaction. « Je suis soulagée, la vérité éclate enfin. Je peux dire aujourd'hui que le jugement du tribunal correspond aux éléments du dossier. »
Anne Fauquemberg, merci. Dans cette affaire, deux camarades de classe d'Evaël doivent encore être jugés par le tribunal des enfants de Pontoise. L'Assemblée nationale a été le théâtre hier d'un épisode de tension assez rare, non pas dans l'hémicycle mais dans la cour du Palais Bourbon. Plusieurs syndicats avaient organisé une manifestation de soutien à des collaborateurs des députés insoumis, des collaborateurs nommément visés par un article à charge du média Frontières classé à l'extrême droite. Le rassemblement a dégénéré avec plusieurs altercations entre les journalistes de Frontières et les élus de gauche présents. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
L'intersyndicale, à l'origine de la manifestation, accuse Frontières d'avoir mis une cible dans le dos de ses collaborateurs parlementaires de la France Insoumise.
Oui, la nébuleuse des collaborateurs de LFI, c'est le titre du dossier consacré aux collaborateurs insoumis. 7 pages et une dizaine de personnes citées. Ismaël El Hajri, collaborateur de Louis Boyard, hérite de quelques lignes qu'il dénonce. Porte-voix radicale, personnage trouble et relais de structures islamistes.
Se faire qualifier d'islamiste en France en 2025, c'est pas rien. On se demande si on peut pas aussi être pris pour cible par des groupes d'extrême droite ultra violents, à l'image de toutes les nébuleuses qui pourraient être amenées à lire ce papier.
Un CV teinté d'islamisme pour le collaborateur de Paul Vanier, des agitateurs sulfureux dans l'équipe de la députée Ercilia Soudé. La liste est longue et ressemble davantage à un fichage, estime la CGT des collaborateurs parlementaires qui demande à l'Assemblée deux choses. D'étendre la protection fonctionnelle accordée aux élus à leurs employés et de retirer l'accréditation de Frontières, car pour eux, le média ne respecte pas les règles déontologiques du journalisme. L'essayiste Raphaël Lorca vient de publier pour la Fondation Jean Jaurès une note à ce sujet qui décrypte 6 numéros du magazine.
C'est beaucoup plus de l'agitprope que du travail d'investigation journalistique. Parce que dans leur défense, ils disent « mais la gauche fait ça aussi, Mediapart est très engagé, Blast est très engagé ». Oui, mais ça reste des organes de presse. Là, ils sont jugés partis. C'est qu'ils créent des incidents pour pouvoir l'instrumentaliser derrière. Ça sort de toutes les règles. Au fond, ils sont là pour créer les conditions d'une intimidation systémique. En fait, c'est ça leur pratique.
Des pratiques d'intimidation et un non-respect du contradictoire. Contacté, le directeur de la rédaction de Frontières, Éric Tegner, affirme que tous les collaborateurs cités dans l'article ont été approchés avant publication. Quant à leur présence à l'Assemblée, perçue par les manifestants comme une provocation, nous n'étions pas là. Nous n'étions là que pour filmer les slogans, précise Éric Tegner. Il n'y a pas eu d'intimidation de notre part. Le journal va par ailleurs, dit-il, déposer plainte contre les élus de gauche qui ont, selon lui, attaqué l'une de leurs journalistes.
Signée Jeanne Serrin. L'actualité politique ce soir, c'est aussi Bruno Retailleau qui dresse un premier bilan, chiffre à l'appui de ses 6 mois au ministère de l'Intérieur. Bilan positif selon le locataire de la place Beauvau en campagne pour la présidence de LR face à Laurent Wauquiez. Il a notamment insisté sur la reprise du contrôle de l'immigration. Bruno Retailleau, qui a été interrogé à plusieurs reprises sur l'un de ses principaux dossiers, les relations franco-algériennes, partisan d'une ligne dure face à Alger, il est monté en première ligne pour obtenir la libération de l'écrivain Boualem Sansal, incarcéré depuis 5 mois en Algérie. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Stanislas.
Bruno Retailleau qui espère reprendre la main après avoir été mis à l'écart lors de la reprise des discussions avec l'Algérie.
Tout à fait. L'arrestation de Boualem Sansal puis l'attentat perpétré en février dernier à Mulhouse par un ressortissant algérien en situation irrégulière avait relancé les attaques de Bruno Retailleau contre l'Algérie, déclenchant une crise diplomatique, une stratégie du rapport de force défendu ce matin par le ministre de l'Intérieur.
Moi, j'assume d'avoir dit ce que j'avais à dire, je continuerai à le dire d'ailleurs. Quand on a une sortie de crise, il y a la diplomatie, il y a le dialogue. C'est évident, sinon on reste enfermé dans une crise. Moi, je veux sortir de cette crise, mais je ne veux pas en sortir avec des faux-semblants. Il faudra des résultats. Ces résultats, c'est les OQTF, pas seulement. Donc, le Premier ministre a parlé l'autre jour de quelques semaines, 4 ou 6 semaines. J'espère qu'on aura des résultats avant, mais c'est dans les semaines prochaines. Donc, tout ça viendra très, très, très vite. Très, très vite.
Bruno Retailleau reconnaît que pour l'instant, il n'y a pas du tout de retour à la normale sur les réadmissions de ressortissants algériens expulsés. Mais vous l'entendez, le ton du ministre de l'Intérieur a changé. Lui qui mettait, il y a encore quelques semaines, sa démission dans la balance si les OQTF algériens n'étaient pas repris par leur pays. Cette stratégie du rapport de force a été désavouée avec la reprise des discussions avec Alger. Bruno Retailleau est toujours ministre de l'Intérieur et il le restera, y compris s'il gagne la présidence de LR en mai prochain, c'est ce qu'il assurait ce matin.
Antoine Barrette, merci pour cette analyse. L'Américain Wes Anderson, l'Iranien Jafar Panahi, la Française Julia Ducournau ou encore les Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, voilà quelques-uns des cinéastes en lice pour la prochaine Palme d'Or à Cannes. La sélection de la 78e édition du festival a été dévoilée aujourd'hui par le délégué général Thierry Frémaux. On en parle avec Antoine Guillot, spécialiste cinéma France Culture. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Stanislas.
Sur la 20aine de films en compétition pour la Palme d'Or, 6 ont été réalisés par des femmes.
Oui Stanislas, 6 réalisatrices, c'est du quasi jamais vu pour le Festival de Cannes. En règle générale, sauf en 2023, il y en avait déjà 6, c'est 2 ou 3 et parfois pas du tout. Alors, on est loin de la parité, mais un tiers des films, ça correspond à ce qui a été présenté au comité de sélection sur les presque 3000 films qu'ils ont dû visionner cette année et donc à la place qu'occupent les femmes aujourd'hui dans le monde du cinéma. On peut évidemment le regretter. Les femmes en question cette année en compétition, ce sont donc côté français une déjà Palme d'Or, vous l'avez dit, Julia Ducournau avec Alpha, une évocation fantastique de l'épidémie de sida au début des années 80 dans un New York de fiction. Il y a aussi une grande actrice qui a gagné ses galons de cinéaste et arrive en compétition pour son 3e long métrage, c'est Afsia Herzi, pour un film d'émancipation familiale et culturelle qui s'appelle La Petite Dernière. Côté femme encore, on se réjouit de retrouver l'américaine Kaylee Reichardt dans un exercice nouveau pour elle de polar dans les années 70. Et puis des jeunes cinéastes déjà repérés ailleurs, mais pas en compétition canoise, l'espagnole Carla Simon, ça sera encore une histoire de sida, l'allemande Masha Chilinski ou la japonaise Chie Ayakawa. C'est d'ailleurs un des très marquants de cette année. Il y a certes les inévitables, mais toujours bienvenus. Frères Dardenne pour la 9e fois en compétition et déjà 2 fois palmé, mais beaucoup de nouveaux entrants et un vrai renouvellement générationnel qui donne envie d'y voir.
Et puis Antoine, au lendemain de la publication du rapport de la commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma, le festival affirme, je cite, avoir pris connaissance avec sérieux et détermination de ses recommandations.
Ah, il serait malvenu qu'il ne le fasse pas. Si rien, malgré les nombreuses enquêtes menées, n'a pu être reproché au festival lui-même et à ses équipes, mis à part un management peut-être un rien rugueux, on sait le terrain de chasse qu'il fut et sans doute encore pour nombre de prédateurs sexuels, dont le plus célèbre d'entre eux, Harvey Weinstein, interpellé directement hier par le rapport de la commission d'enquête, appelé donc à prendre le problème à bras le corps. On attend à présent précisément, puisque la présidente du festival Iris Alice Knobloch a assuré en tenir compte. Eh bien, quelles mesures concrètes seront prises d'ici le 13 mai?
Antoine Guillaume, merci. Vous serez bien sûr à Cannes à partir du 13 mai prochain et vous nous parlerez d'ailleurs du festival tous les soirs dans ce journal de 18h. Mais avant cela, on vous retrouve dès samedi à 14h sur France Culture pour votre émission Plan Large. Un mot du temps demain qui restera ensoleillé et doux. Seuls quelques nuages bas viendront perturber le ciel bleu dans le sud et sur les côtes de la Manche. Les températures minimales seront fraîches de 0 à 10 degrés. L'après-midi, douceur au programme entre 14 et 27 degrés selon les régions. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Alexandre Dang.